Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Plusieurs députés de droite et d'extrême droite réclament la démission du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Hier, le parquet national antiterroriste a confirmé que l'employé de la préfecture qui a tué 4 personnes jeudi avait bien montré plusieurs signes de radicalisation. Il travaillait notamment sur ce qui était la direction du renseignement et possédait même une habilitation secret défense. Alors comment cette habilitation est-elle donnée ? Les précisions de Mathieu Mondoloni.
C'est une procédure très lourde lors de laquelle une enquête administrative est opérée par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Pour cela est effectué ce qu'on appelle un criblage, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une enquête de personnalité et une enquête d'entourage au cours de laquelle la famille, les amis, parfois les voisins peuvent être interrogés. Sont également consultés l'ensemble des fichiers de renseignement possédés par les différents services. On croise les informations, ce qui permet de savoir par exemple si une personne a des antécédents judiciaires, si elle est recherchée, si elle a commis une infraction à caractère terroriste et bien sûr si elle s'est radicalisée. Comment Michaël Harpon a-t-il pu dès lors conserver son habilitation ? Eh bien possiblement parce que cette enquête n'est réactualisée que tous les 5 ou 7 ans. Certains jugent ce délai trop long, mais d'autres rappellent qu'en raison de la lourdeur de la procédure et des moyens alloués, il est très difficile, voire impossible, de le raccourcir.
Édouard Philippe annonce par ailleurs le lancement de 2 missions chargées d'évaluer la détection d'éventuels signes de radicalisation chez les agents chargés de la lutte antiterroriste. On dénombre désormais près de 100 morts en Irak et plus de 4000 blessés depuis mardi, après 5 jours de répression sanglante des manifestations. Hier encore, des milliers d'Irakiens, chiites pour la plupart, sont encore descendus dans les rues pour dénoncer la corruption du pouvoir, le chômage et la déliquescence des pouvoirs publics. Jusqu'où peut aller cette contestation ? Marie-Pierre Véraud a posé la question à Pierre-Jean Luisard, historien spécialiste de l'Irak.
Tout ceci illustre quelque chose qui renvoie à la faillite du système politique mis en place par les Américains en 2003 et qui est une forme de confessionnalisme politique inavoué un peu à la libanaise qui emprisonne tous les acteurs dans une cage confessionnelle dont ils ne peuvent pas sortir. Donc on est dans une situation inextricable où il n'y a pas de solution politique. Pour qu'il y ait une traduction politique, il faudrait qu'il y ait un parti politique ou un mouvement ou un courant susceptible de s'émanciper des liens du confessionnalisme politique. Or, tous les mouvements, sans exception, les mouvements chiites religieux, ont des intérêts à défendre ce système qui pourtant a montré sa faillite. Et on se demande jusqu'où cela peut aller, parce que la société irakienne a atteint un point de non-retour dans le fait de ne plus pouvoir supporter l'insupportable, c'est-à-dire l'absence de services publics, la corruption, l'incapacité des premiers ministres qui se succèdent à résoudre le moindre problème.
Pierre-Jean Luisard, historien spécialiste de l'Irak. Au Portugal, le Premier ministre socialiste Antonio Costa est donné grand favori des législatives, dont le vote est ouvert depuis une heure maintenant. Après avoir été durement touché par la crise, puis éprouvé par un plan d'austérité drastique, le pays fait désormais figure de modèle en Europe. Un reportage à Lisbonne d'Isabelle Labéry.
Antonio Costa n'a pas besoin de défendre son bilan, les chiffres le font pour lui. Porté par une conjoncture économique très favorable, il a pu revaloriser les salaires et les retraites, hisser la croissance à 2% et faire baisser le chômage, tout en redressant les finances publiques. Le paradis après la descente aux enfers, Elena Tecedero est journaliste au Diario de Noticias.
Je pense que c'est surtout cette idée de l'austérité, c'est fini. Avec moi, on peut revenir à la croissance. Laissez-moi continuer. Mon bilan est positif, mais il peut être encore plus positif. C'est surtout ce message-là qu'il essaye de transmettre. Les Portugais aiment beaucoup avoir tous les comptes en ordre. C'est pour ça que ce bilan est tellement important.
Derrière ses rondeurs et son air affable, Antonio Costa s'est surtout révélé un brillant tacticien. Comme il l'avait déjà fait à la mairie de Lisbonne, il a laissé ses partenaires d'extrême-gauche jouer leur rôle d'opposant, sauf sur les dossiers essentiels, comme le budget, question de stabilité. Antonio Costa Pinto est professeur de sciences politiques à l'Université de Lisbonne.
Il a souligné pendant la campagne électorale, et ça c'est important, on veut éviter une solution à l'espagnol. Ça veut dire la crise en permanence, avec des élections anticipées, etc. Et les choses ont bien marché. Les communistes et le bloc de gauche n'ont pas imposé des conditions impossibles au Parti socialiste.
Avec ou sans majorité absolue, Antonio Costa aura de nouveau 4 ans pour consolider le miracle portugais.
Isabelle Labéry, la météo des averses et des nuages presque partout aujourd'hui. Seule la Bretagne et le pourtour méditerranéen seront épargnés avec beaucoup de soleil. Les températures sont comprises ce matin entre 14 et 24 degrés, avec 14 degrés à Strasbourg, 17 à Paris, jusqu'à 22 degrés à Nice et 24 pour Ajaccio. Fin de cette édition réalisée avec François-Charles Domergue et Julien Calvas à la technique. Prochain rendez-vous d'actualité, ce sera à 12h30 avec le journal de la rédaction présenté par Louis de Bergevin.